15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Depuis un peu plus d'une semaine avec le docteur Jimmy Mohamed et toute l'équipe de Sans Rendez-vous, nous nous mobilisons dans ce combat contre l'épidémie de coronavirus. Notre mission à nous, c'est de continuer à vous informer, de répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez. Bonjour docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Mélanie.
Comment allez-vous alors ce premier week-end de confinement? Vous êtes un petit peu obligé de sortir puisque vous devez aller voir les patients, mais ça va comment?
Bon, il faut être un petit peu patient en plus hein, pour les enfants, pour aussi nos proches, mais c'est vrai qu'il faut continuer de travailler, toujours parce qu'on parle du coronavirus, mais aussi des malades du quotidien, donc je continue de faire mes visites. Jusqu'à quand? C'est une interrogation, mais soyons optimistes, on va y arriver.
Allez, parfait. Alors, au programme aujourd'hui, pour répondre à toutes vos interrogations, nous aurons bien évidemment des experts en ligne. Nous commencerons par un point sur l'état de la recherche avec le docteur Vincent Hénouf, virologue à l'Institut Pasteur. Avec lui, nous verrons par exemple si les données concernant la virulence de ce virus ont changé, où en sont les recherches pour trouver un traitement aussi. Et puis, il nous dira à partir de quand pourra-t-on voir enfin si le confinement de la population en France porte ses fruits. Ensuite, nous interrogerons Yanis Mérad. Il fait partie de l'Association des étudiants en médecine de France. Il est au CHU de Dijon. Il est mobilisé. Il nous racontera comment on continue d'apprendre la médecine dans un contexte de crise sanitaire. Après ça, nous aborderons un sujet dont on a peu parlé jusque-là. Comment continuer à lutter contre une addiction au tabac ou même à l'alcool en période de confinement? Nous ferons le point avec l'addictologue Michel Reynaud. Et puis bien sûr, l'urgence aujourd'hui, c'est d'arriver à prendre en charge médicalement les cas les plus sévères de coronavirus. Mais en même temps, en ce moment, d'autres problèmes de santé sont toujours là. On fera un point sur les soins dentaires qui s'organise un peu différemment avec le dentiste Alain Ebsalag. Enfin, pour terminer avec notre psychanalyste Catherine Blanc, nous parlerons de ces couples qui allaient déjà mal avant cette épidémie. Comment gérer le confinement quand on était déjà au bord du divorce?
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone. Docteur Vincent Hénouf, bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes virologue, responsable adjoint du Centre de référence virus et infections respiratoires à l'Institut Pasteur, institut évidemment en première ligne dans le combat contre le coronavirus. D'abord, comment vous portez-vous?
Très bien.
C'est vrai, c'est aussi simple que ça. J'allais dire, vous devez travailler beaucoup, vous et vos équipes, en tout cas ça en sans doute.
C'est ça, oui. Le laboratoire, depuis plusieurs semaines, plus ou moins, est embolisé en effet par cette crise. L'équipe est complète, on a même une équipe qui se complète au fur et à mesure du temps puisque des laboratoires ont fermé et donc le personnel de ces laboratoires vient nous aider de telle manière à faire face à l'afflux d'échantillons et surtout à l'expertise qu'on doit mettre en place maintenant pour toujours surveiller ce virus.
Donc je vois que vous avez des renforts, ça c'est une bonne nouvelle, mais vous arrivez, parce que on vous pose tout le temps des questions sur le virus, on va y venir, mais vous arrivez quand même à vous reposer un peu, j'imagine que vous comptez pas vos heures.
En ce moment, non. Toute l'équipe travaille une bonne partie de la semaine. Le week-end, en effet, on continue à faire ce que l'on n'a pas pu faire durant la semaine, puisqu'il y a plein de choses qui tournent autour du laboratoire. Mais voilà, mais on n'est pas les seuls. Hein. Quand vous voyez, en effet, tout ce qui est médical, les urgences, les laboratoires, etc., on assiste les laboratoires aussi à distance. Ceux qui ont utilisé, qui utilisent toujours notre technique, eh bien, il faut continuer à échanger de telle manière à les aider au niveau de certains résultats. Et puis là, un autre souci qui devient de plus en plus important, c'est l'approvisionnement en matière, donc en kit d'utilisation, en enzymes, en kit de prélèvement. Parce que si vous n'avez plus ces matières-là, vous ne pouvez plus faire le test.
Ouais. Jimmy Mohamed,
Quel est l'axe prioritaire à Pasteur en ce moment? Est-ce que c'est mieux comprendre le virus, trouver un traitement, un vaccin? Et vous êtes une équipe de combien de chercheurs qui sont mobilisés?
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs équipes en fin de compte à l'Institut Pasteur. Le CNR, lui, s'occupe et toujours depuis le début à la détection du virus. Aujourd'hui, on supplée certains laboratoires qui sont soit surchargés, soit justement en manque de certains kits. Et donc, on réalise pour eux les détections. Donc ça, c'est une grosse partie. Aujourd'hui, par exemple, on va avoir 200 échantillons à traiter parce qu'il y a des laboratoires qui, aujourd'hui, ne peuvent plus faire face à l'ensemble des échantillons qu'ils reçoivent. Donc ça, c'est le CNR, ça va être la partie détection. Au niveau recherche, on continue sur ces mêmes échantillons à faire le séquençage, donc à déterminer le génome et à déterminer s'il y a des mutations qui seraient en relation avec une clinique particulière, avec une symptomatologie particulière. Aujourd'hui, on n'observe rien. Le virus n'a pas tellement évolué. au niveau de l'infection, de son potentiel de diffusion, il n'a pas besoin d'évoluer puisqu'il diffuse très 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 facilement. Et autrement, au niveau de l'Institut Pasteur, vous avez des équipes qui travaillent actuellement sur, et nous aussi en partie sur la sérologie, donc des futurs tests sérologiques qui permettraient de screener, donc de vérifier à très grande échelle si la population porte des anticorps, en fin de compte, pour voir si elle est protégée. Et ça sera des questions qu'on se posera sans doute
après le confinement. On va y revenir après sur la sérologie. Je voulais juste vous demander d'abord, le ministère de la Santé a précisé que désormais, on a plus de 16 000 cas confirmés en France. On est d'accord? Ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, hein, le nombre de cas dépistés, il est bien loin de la réalité. On a une idée quand même un tout petit peu de ce qui se passe en réalité, dans la vraie vie, en population aujourd'hui en France?
Non, il est difficile d'extrapoler. Et en plus, les personnes sont confinées maintenant, donc... aujourd'hui, on n'extrapole pas forcément. Quand on vous donne ces chiffres-là, ce sont réellement des personnes qui ont été détectées. Il n'y a pas d'extrapolation faite à ce
jour. Vous n'avez pas de modélisateur à Pasteur qui dise on est au moins 10 fois, 100 fois au-dessus de ces chiffres-là?
On a des mobilisateurs, mais honnêtement, j'ai pas vu ces chiffres d'éventuellement calculer justement le nombre de personnes qui seraient susceptibles d'être infectées aujourd'hui, comme on peut le faire pour la grippe. Mmh. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. On est justement, les personnes sont confinées chez elles, et donc c'est justement pour casser ce mode de diffusion du virus, et donc il est difficile d'extrapoler sur des conditions qu'on n'a jamais vues jusqu'à aujourd'hui pour l'instant.
Jimmy ?
Justement, vous parliez de confinement, nous sommes à une semaine de confinement et on a l'impression que les Français en ont déjà marre, ils se demandent combien de temps ça va durer. Est-ce que on ne prend pas beaucoup de risques en disant que ça va durer bien plus que les 15 jours qui ont été initialement annoncés ?
Je pense qu'on prend pas de risque. Il faudra quand même regarder, ça sera une indication à la fin de ces premiers 15 jours. 15 jours, ça correspond aussi au temps d'incubation du virus, donc des personnes qui seraient confinées, on va dire, donc mardi dernier, et si mardi prochain, elles n'ont pas déclaré la maladie. Déjà, ça sera déjà une avancée. Ça permettra de dire attention, même si vous n'avez pas été infecté il y a 14 jours, si vous avez respecté le confinement et si vous avez respecté toutes les décisions qui ont été indiquées jusqu'ici.
En dehors du confinement, est-ce qu'à Pasteur, par exemple, vous en savez plus? Vous avez dit que vous l'étudiez tout le temps, ce virus, les échantillons que vous recevez, vous les analysez, vous surveillez son évolution. Est-ce qu'on a une idée éventuellement sur la fragilité de ce virus par rapport à la chaleur? Est-ce qu'on peut encore avoir un espoir qu'avec le réchauffement des températures, ça évolue dans le bon sens?
Alors, le réchauffement des températures, en effet, ne vont pas faciliter, je dirais, la vie du virus. Ça, c'est certain.
On sait déjà qu'il est sensible à ça, ce virus, comme les autres coronavirus, parce que le MERS-CoV, par exemple, il n'a pas l'air très sensible à la chaleur.
Alors, le MERS-CoV n'est pas forcément très sensible, puisqu'il est dans les pays moyen-orientaux, mais il est difficile de faire des pronostics, justement, sur la survie du virus. En plein soleil, évidemment, ça va être compliqué pour lui. Mais aujourd'hui, on sait qu'un virus reste quelques heures sur des supports métalliques, supports plastiques, etc. Et c'est pour cette raison, actuellement, on voit que l'amplitude thermique peut être importante d'une journée sur l'autre. Aujourd'hui, il fait très froid. On est proche des zéros le matin, l'après-midi, on est proche des 15 ou 16. On a un peu toutes les conditions et le virus, pour l'instant, en tous les cas, est détecté à un très grand niveau. Et donc, on peut pas dire et on peut pas dire de manière assurée que cet été, il y aura plus ce virus en tous les cas.
Jimmy ?
Une des craintes, notamment de l'OMS, c'est de savoir que l'épidémie risque de se développer dans des pays comme en Afrique ou des pays qui sont moins bien dotés que nous. Ça peut être un peu une catastrophe sanitaire dans ces zones-là ?
Oui, complètement. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que tous les moyens qu'on met en œuvre et malheureusement, on voit qu'en France, en effet, on est saturé déjà dans un grand nombre de régions par le nombre de personnes malades. Si la même chose arrive en Afrique, avec des moyens sanitaires beaucoup moins évolués que ceux que l'on a en Europe, eh bien, la catastrophe risque d'être importante. Aujourd'hui, il y a très peu de cas qui ont été détectés. Alors, c'est des choses qu'il faut continuer à observer. On sait aussi que le système de surveillance des virus respiratoires, en règle générale, n'est pas aussi performant que les systèmes européens ou mondiaux, etc. Donc, tout ça, il faut vraiment continuer à observer ce qui se passe autour de nous, de telle manière à soit aider ou soit prévenir, enfin, voir comment on peut améliorer les choses, et toujours en concertation avec l'OMS.
Merci beaucoup, docteur Hainouf. Bien sûr, on n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec évidemment une émission entièrement consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Avec nous en ligne aujourd'hui plusieurs experts. Le docteur Enouf de l'Institut Pasteur reste pour vous répondre juste après et vous faire part de l'évolution de la situation. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission aujourd'hui évidemment consacrée à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous interroger au 39-21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Alors justement, il est à l'Institut Pasteur, lui est toujours avec nous en ligne. Le docteur Vincent et nous, vous êtes responsable adjoint du Centre National de Référence Virus et Infections Respiratoires. Docteur Enouf, on sait que les chercheurs français ils sont tous mobilisés dans ce combat, mais d'abord, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore sur ce virus qu'il faut absolument comprendre aujourd'hui?
Déjà, beaucoup de choses peut-être. Il y a beaucoup de choses, mais par exemple, ouais. La grande contagiosité du virus, il va falloir qu'on l'explique. On est dans une pandémie actuellement, donc pourquoi ce virus et pas un autre, ça sera une grande question. La question qui va venir très vite aussi, c'est les questions justement de sérologie et des anticorps que vous fabriquez lorsque vous êtes infecté. De manière peu symptomatique ou non symptomatique, il va falloir qu'on puisse avoir une idée du statut immunitaire de la population très vite. Et cette question sera d'autant importante quand le confinement sera arrêté, de telle manière à savoir et avoir une idée de qui a été infecté et qui ne l'a pas été. Et peut-être pour mettre en place des systèmes de détection plus faciles, en fin de compte, permettant à chacun de déterminer s'il est porteur ou pas du virus. Enfin, voilà, il y a toute cette démarche. Qu'il va falloir, et cette mécanique qu'il va falloir mettre en marche après, avec la sortie du confinement. Il faut déjà y penser maintenant.
Justement, on a une question dans ce sens. On reçoit beaucoup de questions d'auditeurs sur le hashtag Radio Ouverte. On en a une de Jacques dans les Bouches-du-Rhône qui demande pourquoi on ne ferait pas de transfusion à partir du sang des gens guéris qui ont peut-être des anticorps présents. C'est une piste de travail, ça, ou pas?
C'est une piste de travail. C'est des choses qui ont été faites avec le H5N1, qui est un autre virus respiratoire. Des sérums de patients infectés par ce virus avaient été utilisés chez des patients très très graves. En effet, ce sont des choses qui peuvent être faites uniquement à l'hôpital, ce sont des transfusions sanguines, et c'est des choses qui sont réfléchies actuellement en effet pour ce Covid-19.
Jimmy ?
Lorsqu'on regarde le taux de mortalité, on voit que ça varie quand même énormément d'un pays à l'autre. Est-ce que c'est lié au fait que nous n'ayons pas tous le même dénominateur? En Corée, par exemple, ils vont dépister massivement tout le monde, et donc forcément la mortalité va être plus faible. Ou est-ce que le virus, une fois qu'il est chez nous, là en Europe, en Italie, il serait plus virulent, plus mortel que ce qu'on aurait pu imaginer?
Non, les virus que l'on observe, si on se base sur la carte génétique, sont assez proches les uns des autres. On peut avoir différents virus. Nous, on va avoir des virus qui sont issus de l'Italie, qui sont issus de Chine, etc. Donc, en effet, vous avez répondu à la question. C'est le dénominateur qui n'est pas forcément le même par rapport au mode de comptage et surtout à la quantité de tests qui peuvent être effectués d'un pays à l'autre.
Vous parliez tout à l'heure que vous étiez, Pasteur, vous surveillez notamment les mutations éventuelles de ce virus. On sait que les virus, même celui de la grippe, ils ont tendance à muter. Celui-ci, vous avez dit pour l'instant pas de grosses mutations, mais peut-être qu'on peut quand même rappeler aux gens que mutation d'ailleurs veut pas toujours dire aggravation. Parfois on peut avoir une mutation qui est une bonne surprise, on est d'accord?
Tout à fait, c'est exactement ça. Vous pouvez très bien avoir un virus qui mute, une mutation qui est très importante et donc qui provoque l'extinction d'un virus respiratoire. Ça, c'est des choses qui peuvent être observées. D'ailleurs, le SRAS de 2003, donc un autre coronavirus, aujourd'hui, on ne l'a jamais plus redétecté depuis l'épidémie, la grande épidémie qu'il y avait eu en 2003. Donc, du jour au lendemain, en effet, on pourrait très bien avoir un virus qui s'éteigne. Aujourd'hui, on a quand même une situation très différente. On a un virus pandémique avec quelque chose, donc un virus qui s'est diffusé sur l'ensemble de la planète. On se pose d'autres questions. On se pose, est-ce que c'est pas un nouveau virus respiratoire qui va faire partie de la grande famille des coronavirus? C'est quelque chose qui peut être tout à fait imaginé. D'où l'importance de mettre en place un vaccin, car il faudra protéger, parce que le virus risque d'être toujours aussi sévère, enfin provoquer des cas sévères chez différentes catégories de la population, que vous soyez âgé ou déjà malade, comme on l'observe aujourd'hui. Donc il sera très important d'avoir un vaccin performant pour pouvoir protéger cette population si le virus venait à revenir en fin de compte de manière saisonnière tous les ans ou à être en bruit de fond en permanence présent.
Jimmy ?
On sait que la France ne teste aujourd'hui finalement que les cas sévères. Les cas notamment en ville ne sont pas testés, donc on ne rentre pas dans le chiffre. Pourquoi est-ce qu'on ne teste pas plus de monde? C'est Sylvie sur le hashtag Radio Verte qui se demande si ce n'est tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens.
Alors aujourd'hui, au niveau des laboratoires, en effet, on teste les personnes qui sont, c'est une décision qui a été prise, les personnes qui sont malades, personnel soignant, etc. En effet, on fait pas un dépistage à qui veut être dépisté. Il faut avoir une symptomatologie et autrement, vous n'êtes pas détecté. Alors aujourd'hui, en effet, il se pose la question de l'approvisionnement et les types de kits. Pour l'instant, les kits qui sont au laboratoire sont, enfin, les techniques qui sont au laboratoire sont des techniques qu'on pourrait dire lourdes. On imagine aussi maintenant l'utilisation de kits qui soient plus légers et qui permettent, plus portatifs, et qui permettraient éventuellement, en sortie de confinement, je dis bien, de faire des tests plus facilement pour vérifier son statut infecté ou non infecté, ou alors son statut immunitaire. J'ai été déjà infecté, j'ai des anticorps et donc je suis protégé. Mais vous voyez, même par rapport à la question des anticorps, il va falloir voir si ces anticorps sont bien neutralisants, sont bien protecteurs, et donc ça demande des tests.
Et combien de temps ils nous protègent une fois qu'on l'a été infecté et qu'on en a éventuellement,
exactement,
c'est ça?
Non.
Parce que donc la grippe, ça, par exemple, on sait que ça ne dure pas très longtemps, non? Quand on est immunisé, par exemple, contre la grippe.
C'est à peu près 6 mois, c'est à peu près 6 mois, et c'est pour ça qu'il faut se refaire vacciner tous les ans, tout à fait. C'est toutes ces questions qu'il va falloir, auxquelles il va falloir répondre.
Alors, vous parliez tout à l'heure de techniques de dépistage qui s'améliorent, qui progressent, on cherche de nouveaux moyens, notamment de mettre au point un test sérologique, c'est-à-dire une prise de sang qui permettrait de nous dire si oui ou non on a eu le coronavirus ou on l'a. Ça va venir dans combien de temps? Ça, vous y travaillez déjà, mettre en place ce test?
Alors, il y a différentes tests. Il y a des tests qui vont permettre de screener, de vérifier à très grande échelle un grand nombre de sérums, et puis vous avez des tests uniques à utilisation, à usage unique, qui existent déjà dans certains pays et qu'il va falloir que l'on teste ici en France, voire en Europe, de telle manière à déterminer s'ils peuvent être utilisés, s'ils sont fiables, de telle manière à répondre aux questions qu'on énumérait juste avant.
Jimmy?
Passons au traitement à présent. Alors effectivement, on parle énormément de la chloroquine, de l'antipaludéen et des travaux du professeur Raoult à Marseille. Est-ce que c'est raisonnable de parler d'un traitement miracle? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que c'est, voilà, comment prendre les choses?
Aujourd'hui, avec la chloroquine, il y a eu des tests qui ont été effectués, tous in vitro, et en effet, in vitro, vous voyez un effet. Mais malheureusement, ce qu'on avait observé pour le SRAS, donc le SARS-CoV-1, en 2003, des tests avaient été aussi effectués, mais in vivo, donc sur l'humain, il n'y avait pas du tout, enfin il n'y avait pas d'effet raisonnable pour utiliser cette molécule. Donc aujourd'hui, il est nécessaire, et c'est ce qui va être fait, de faire des tests de telle manière à vérifier les données in vitro qui ont été publiées jusqu'ici. Et cela permettra en effet d'identifier ou non une molécule permettant de faire baisser la charge virale de manière rapide, normalement, chez les patients infectés.
Et sur la chloroquine, ce qui se passe à Marseille avec les patients maintenant qui sont tous dépistés là-bas, ils suivent pas les règles nationales en tout cas. Ça vous semble, ça va plus vite que la musique ou qu'est-ce que vous en pensez?
Il est difficile de juger ou quoi que ce soit. En tous les cas, il y a des règles, il y a des moments pour chaque chose. En tous les cas, aujourd'hui, il y a des règles qui sont indiquées et que on essaye de suivre, que le plus grand nombre essaye de suivre.
Et quid juste d'un vaccin pour terminer? Je sais que vous faites partie de ceux qui travaillent dessus. Vous disiez on en aura besoin, surtout si ce virus il devient saisonnier. Vous en êtes où, à quelle étape là aujourd'hui?
Alors l'Institut Pasteur en effet travaille sur ce vaccin. Vous avez d'autres sociétés, d'autres instituts de recherche qui travaillent aussi dessus. Sur la formule que l'on propose, enfin qu'on pourrait proposer, il faudra attendre quelques mois. Oui, c'est ça, c'est un vaccin type rougeole, et donc qui permettra de, et cela sera vérifié en tous les cas pas avant 6, 7, 8 mois en effet.
Merci beaucoup docteur Hénouf d'avoir été avec nous pour répondre aux auditeurs d'Europe 1 alors qu'on sait vous êtes très occupé. Merci encore, on
merci
apprécie vraiment hein, que vous les chercheurs vous preniez encore le temps de nous expliquer votre travail en toute transparence. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Sans Rendez-vous revient. Nous appellerons un jeune soignant. Lui, il est encore étudiant en médecine. C'est Yanis Merad, en stage au CHU de Dijon. Il apprend son futur métier en pleine crise sanitaire au service de pneumologie et aussi en renfort à la régulation des appels au 15. Comme lui, beaucoup d'étudiants en médecine viennent en aide partout où ils sont utiles. Il va nous raconter tout ça. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille par téléphone à présent Yanis Merad. Bonjour.
Bonjour.
Yanis Merad, vous êtes étudiant en médecine, c'est ça, hein ? Vous en êtes où, vous, précisément, dans vos études, qu'on comprenne bien ?
Alors, moi, je suis en 5e année de médecine à Dijon.
Très bien. Et donc là, vous entamiez un stage, si je ne me trompe pas, au service de pneumologie du CHU de Dijon. On peut dire que vous êtes tombé dans un service en première ligne, du coup, avec cette épidémie.
Oui, voilà, exactement, puisque c'est un service qui accueille donc depuis la semaine dernière des patients atteints de l'infection à coronavirus. Donc voilà, vraiment au cœur de l'action. Hein.
C'est bien tombé, si je puis dire. C'est un peu compliqué, mais vous êtes là où on a besoin, en tout cas. Jimmy Mohamed ?
Et comment ça se passe concrètement dans ce service ? Tous les lits sont occupés, vous êtes déjà plein. Est-ce que vous avez autre chose, entre guillemets, d'autres pathologies que du coronavirus, ou finalement toute l'aile désormais est réservée pour ça ? Puisqu'on rappelle aux auditeurs qu'un service de pneumologie peut accueillir des infections respiratoires comme des pneumopathies, mais aussi des gens qui souffrent de cancer, des bronchites chroniques, des asthmatiques. Et est-ce que finalement tout a été, on va dire, chamboulé et vous avez exclusivement que du coronavirus, si on peut dire les choses comme ça ?
Bah absolument. En fait, on a complètement réorganisé l'activité du service, puisque les patients qui étaient habituellement pris dans l'unité de pneumologie, qui ont donc des maladies du poumon qui les rendent vulnérables à l'infection à coronavirus, ont été sortis de cette unité pour être pris en charge ailleurs, et que cette unité soit réservée à la prise en charge des patients atteints du virus, hein, pour protéger les plus fragiles.
Alors vous, en tant qu'étudiant en 5e année, du coup, vous faites quoi concrètement dans ce service, vos tâches, on va dire dans le service, je sais que vous faites d'autres choses, notamment au SAMU, on en parlera après, mais dans le service, là aujourd'hui, vous apprenez votre travail de la même façon qu'avant, vous faites quoi ?
Eh bien, en fait, la situation actuellement dans le service de pneumologie, les étudiants, on n'est pas au contact des patients, puisqu'on n'est pas indispensable à la prise en charge, en tout cas actuellement, pour l'instant. Donc, pour nous protéger, pour nous préserver, on n'est pas au contact des patients. On est plus en soutien sur la prise en charge de ces patients-là, donc sur l'aspect plus logistique, administratif, la gestion des dossiers. Mmh. Et puis aussi et surtout sur le soutien pour la prise en charge des patients non atteints de coronavirus, hein, qui sont pris en charge dans d'autres unités de l'hôpital.
Oui, qu'il faut réorienter et tout ça, bien sûr. Mmh.
Voilà, donc les patients habituels de pneumologie, sur ceux-là, voilà, on est vraiment mis à profit pour les prendre en charge. Mmh.
Et dans votre service au CHU de Dijon, il y a déjà eu des patients coronavirus qui sont décédés. Vous avez été confronté à ça, vous, en tant qu'étudiant en médecine ?
Oui, on y est confronté. C'est une infection, je vous apprends rien, c'est une infection qui est sévère. Donc les patients peuvent aller en réanimation, peuvent décéder. Donc on y est confronté. Maintenant, je pense qu'on est quand même bien entouré, d'autant plus dans le contexte actuel. Ça resserre aussi. Hein.
Jimmy ?
Justement, on dit que les malades qui sont hospitalisés du coronavirus sont des malades forcément plus sévères, mais ils vont comment ? Est-ce que c'est des malades qui sont sous oxygène ? Ils ont un peu d'oxygène, beaucoup ? Ou c'est des malades parfois qui ont un terrain fragile, que vous surveillez et qui vont pas si mal que ça ? Vous avez quoi comme en échantillon, si on peut dire ça, de patients ?
Eh ben actuellement, pour les patients qui sont hospitalisés, la plupart, comme vous l'avez dit, relèvent d'oxygène, ont besoin d'oxygène de manière continue. Mais il y a aussi beaucoup de patients qui entre guillemets vont bien, qui restent à domicile, qui sont pas hospitalisés. Mais voilà, ceux qui sont hospitalisés nécessitent en général de l'oxygène et voilà.
Et vous avez des patients qui sont jeunes. Vous avez des patients jeunes et qui sont hospitalisés, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des personnes âgées, et puis maintenant on dit qu'en réanimation, on a 50% des malades qui ont moins de 60 ans. Vous avez des jeunes de 30 ans qui n'ont pas d'antécédents particuliers, qui sont sous oxygène, qui sont dans un état préoccupant dans vos lits ?
Alors, dans mon service, ce n'est pas le cas. On a des jeunes de moins de 50 ans, oui, 30 ans, non. Mais voilà, on n'a pas que des gens qui sont polypathologiques. On a effectivement, il y a des profils de patients qui sont plus à risque de développer des formes graves. Mais je pense que le message aussi qu'il faut relayer, c'est que ça ne concerne pas que les personnes qui ont déjà des maladies et que des personnes jeunes, bien portantes, peuvent aussi développer des formes assez graves qui relèvent d'une hospitalisation à minima et parfois même de réanimation. On l'a vu dans certains hôpitaux.
Et c'est partout comme ça, partout en France. Je veux dire, vous faites partie de l'association des étudiants en médecine de France. Tous les externes, les étudiants en médecine sont mobilisés. Vous êtes suffisamment protégés d'ailleurs ?
Eh bien oui, alors dans la plupart des hôpitaux, on est mis à profit. Alors pas toujours sur les mêmes missions. On est bien protégé. Alors en tout cas, chez moi à Dijon, c'est le cas. Je veux dire, un étudiant ne sera pas amené à être mis en contact avec un patient atteint de l'infection à coronavirus s'il ne dispose pas d'un masque et du reste du matériel nécessaire pour se protéger. Des échos qu'on a pu avoir d'autres villes, c'est pas forcément toujours le cas, du fait notamment de la pénurie de matériel. Donc,
ouais,
c'est aussi
sûr.
Pour ça qu'il est important de bien appeler les gens à pas utiliser des masques pour rien. Voilà, il y a des indications pour porter un masque. Mais le reste du temps, il faut peut-être réserver ce matériel pour les professionnels de santé qui sont en première ligne face à l'infection.
Merci beaucoup Yannis Merad d'avoir été notre invité. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci encore.
Merci.
Dans un instant, nous allons prendre en ligne l'addictologue Michel Reynaud en cette période si anxiogène pour tous. Les personnes qui souffrent d'une addiction au tabac, à l'alcool ou à une autre drogue sont particulièrement à surveiller de près. Comment s'organise le suivi de ces patients plus fragiles en cette période très stressante? On fera le point avec lui.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
La France bouge, c'est votre rendez-vous quotidien. Avec cette crise sanitaire, nous vous proposons un dispositif spécial solidarité. Que vous soyez une entreprise, une association, une collectivité, on vous donne la parole. Nous allons vous écouter, mettre en avant vos initiatives et récolter toutes vos bonnes idées.
Europe 1, écoutez le monde se mobiliser.
La France bouge, la France se bouge. C'est demain à partir de midi sur Europe 1 et sur le hashtag Radio Ouverte.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Notre émission s'adapte évidemment, vous l'avez compris, nous sommes tous les deux désormais en télétravail chez nous. Mais bien sûr, on reste mobilisés pour vous informer. Alors à présent, on accueille par téléphone l'addictologue Michel Reynaud, président du Fonds Action Addiction. Bonjour.
Bonjour Mélanie Gomez, bonjour Jimmy.
Alors docteur Reynaud, avec vous on va parler des difficultés pour ceux qui souffrent d'une addiction en cette période de confinement. Et on a reçu des questions, je vais vous lire tout de suite l'une d'entre elles. C'est celle d'Emmanuel sur le hashtag Radio Ouverte, je vous la lis. J'ai arrêté de fumer depuis un an à peu près et je vapote. Pour l'instant j'ai tout le matériel qu'il me faut. J'ai vu que les tabacs étaient ouverts, qu'en est-il pour les boutiques de vape? Alors je vous avoue que j'ai sélectionné cette question parce que ça m'intéressait tout particulièrement, vous le savez.
Alors, normalement, après avoir eu une semaine d'oubli des addicts et de ceux qui les soignent, peut-on le reprocher au gouvernement qui a pris des décisions larges? Mais on s'aperçoit qu'on est maintenant à une période où il faut des bonnes pratiques adaptées à ceux qui sont plus vulnérables. Parmi ceux-là, il y a ceux qui souffrent de troubles psychiques ou psychiatriques, il y a les addicts, mais il y a aussi les cancéreux. Il faut maintenant qu'on ait des précisions sur la façon de se comporter. Alors, ceci dit, les professionnels se sont agités, organisés, de façon à avoir quand même une réponse la plus adaptée. On va y revenir. Pour répondre précisément à la question de la vape, oui, ça faisait partie des choses qui ont été oubliées. Les cavistes n'ont pas été oubliés parce que quand même c'était un aliment de première nécessité dans ceux du mauvais esprit là, mais c'était
ouais, c'est vrai.
Les vapes n'avaient pas le droit et un décret récent, vous savez qu'il y a des décrets modificatifs réguliers
ça a été réglé, je crois,
a été autorisé, les a autorisés à ouvrir et c'est très très bien parce que cette situation de confinement est une situation de stress. Pas normal. Et les plus solides personnellement, familialement, socialement, aux autres, s'en sortiront. C'est les plus vulnérables qui auront plus de difficultés. Et les addicts sont fragiles. C'est des émotions dures. On y reviendra même sur des formes encore plus inquiétantes. Et la tentation naturelle, c'est de reprendre devant une situation de stress qu'on peut pas gérer, d'en prendre une cigarette. Ou on va chercher, même si on avait réussi à s'arrêter, on va reprendre un verre.
Je vais bien le croire, hein, parce que vous savez, vous connaissez ma situation, je m'en suis jamais cachée dans cette émission, j'ai arrêté de fumer il y a 4 mois, lors du mois de sans tabac, et je vous avoue que jusque-là, ça s'était passé sans aucun accro. Là, depuis qu'on est confiné, moi, c'est la première fois que m'est revenue une pensée de cigarette, même si je l'ai pas fait, je n'ai pas craqué, mais je comprends les addicts, c'est difficile, hein,
voilà,
cette période-là.
Je vous connais pas bien, mais j'imagine que vous êtes relativement solide, dans un environnement relativement fiable et attachant. Imaginez ce que c'est pour ceux qui sont soit seuls, soit dans un environnement compliqué, avec des relations familiales compliquées, c'est de se précipiter sur le paquet. Donc, ils ont besoin d'être encore plus protégés. Alors, on va voir, si vous voulez, les solutions qu'ont mis en place les soignants. Ils ne sont pas abandonnés.
Allez-y, dites-nous, effectivement.
Je vous dis, les soignants des addicts ont été abandonnés à eux-mêmes, pire que les EHPAD, puisqu'ils n'existaient même pas dans les préconisations. Et on s'aperçoit, ils n'avaient pas ni les gels, ni les masques, et il n'y avait aucune information pratique. Néanmoins, avec leur bonne volonté, et aussi bien ceux qui sont en contact avec les plus difficiles, dans les SDF ou ceux qui sont dans la rue ou les craqueurs, ils ont quand même mis en place la possibilité de consultation un peu protégée. Évidemment, les consultations à distance, en téléconsultation, se sont profondément développées. Il y a un certain nombre de trucs qui ont été donnés. Il faut pas plus qu'on doit partager un verre ou un joint ou une cigarette avec quelqu'un en ce moment. On leur rappelait que le matériel de sniff ne devait pas être...
Bien sûr.
Partager toutes ces choses-là. Et les acteurs de la réduction des risques ont donné des consignes d'adaptation au moindre risque.
Dimi Mohamed.
Justement, puisque vous disiez qu'il y avait certains outils pour assurer le suivi, parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, le monde de la médecine est un peu suspendu, les cabinets de radiologie ferment, de nombreux spécialistes ne travaillent plus, des dermatologues qui annulent des rendez-vous. Est-ce que, du coup, vous, les tabacologues, les addictologues, vous continuez de travailler, surtout dans quelles conditions? Est-ce que la téléconsultation est une alternative acceptable? Est-ce que vous arrivez quand même à garder et à suivre vos patients?
Alors, je ne suis pas la direction générale de la santé, auquel il faudrait demander ces remontées régionales. Moi, ce que j'ai par mes collègues, les réseaux sociaux, les échanges que j'ai avec tous les praticiens, oui, ils font tous, aucun n'a fermé, ils travaillent tous en essayant d'être à la fois le plus efficace et de se protéger et de protéger les malades. D'où la téléconsultation, d'où le fait que les consultations sont gardées plutôt pour les patients qui en ont le plus besoin, les autres, ça peut se faire par téléphone. Donc, moi, je les ai vus s'adapter. Alors maintenant, je n'ai pas forcément une vision nationale.
Juste un mot sur l'addiction, les problèmes d'alcool. En tout cas, ça va être un vrai problème, non, pendant ce confinement. Vous, je sais que c'est un des sujets qui vous tient à cœur. Là, les Français, tous confinés chez eux, vous avez dit les caves sont encore ouvertes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les consommations d'alcool augmentent à cette période?
Alors, là encore, pour les gens fragiles, oui. Ce qui va diminuer, c'était les consommations d'alcool festives, parfois massives, toutes les soirées, les bars. Donc, de ce côté-là, on aura une diminution des dommages. En revanche, pour ceux qui boivent parce qu'ils sont tendus, mal à l'aise, en souffrance, la réponse alcool va naturellement venir. Alors, ça peut aller du verre que l'on prend tous avec un certain plaisir, parce que quand même, il faut bien en avoir dans ce moment.
Il y a les apéros Skype qui se lancent, là. Tout le monde fait
Alors,
ça, on en a entendu parler
Skype,
beaucoup ce week-end.
Oui.
Mais avec modération, les apéros Skype, c'est ça le
problème. C'est toujours le même problème, c'est que ça ne doit pas autoriser ceux qui sont des trop gros consommateurs, ça ne doit pas justifier et normaliser ces consommations. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que vont reprendre les consommations pathologiques à la maison, pour certains, toujours les plus fragiles.
Et attention aux violences conjugales avec ça aussi, parce que l'alcool est très souvent dedans.
Ce qui m'a affolé, c'était que le 3919 répondait plus, il recommence là. Donc c'est très bien. Il faut pas hésiter à l'appeler. Faut pas hésiter à appeler non plus e-enfance, que l'on peut joindre aussi par le net, parce qu'il y a aussi ça vaut pour les parents et les enfants. Il y a aussi les violences faites aux enfants.
Bien sûr.
Et nous, on a développé les réponses avec les forums d'entraide. Il y a le forum d'entraide Addicted, où on a ouvert une page coronavirus, mais où les gens s'expriment sur leur difficultés avec l'alcool, le cannabis.
Bien sûr.
Et puis, ça marche énormément les groupes de type « Je ne fume plus » ou le groupe alcool, Facebook alcool, soutiennent énormément, où il y a beaucoup de souffrances qui s'exposent, mais aussi beaucoup de soutien. Donc, faut pas hésiter à ne pas être seul. Il y a également les Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes qui ont des groupes virtuels.
Merci beaucoup, docteur Michel Reynaud, d'avoir été avec nous hein, pour nous donner tous vos bons conseils. On a compris qu'il y avait pas mal de solutions et de forums d'entraide sur Internet qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Merci encore.
Merci à vous.
16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors nous accueillons à présent en ligne un dentiste, c'est le docteur Alain Hamzalag. Bonjour.
Bonjour.
Alors faute de masques, docteur, d'équipements de protection, beaucoup de cabinets dentaires ont dû fermer leurs portes, paraît-il. Voilà. Comment ça se passe chez vous? Vous avez un cabinet dans le 17e à Paris, je crois.
Oui, alors on est très très frustrés parce que tous les médecins, on nous a demandé, l'ordre des dentistes nous a demandé de suspendre toutes nos interventions, mais par contre de maintenir un lien, une communication avec nos patients, soit par le téléphone, soit par mail. Donc ça c'est la première chose. Les masques FFP2 sont plutôt réservés aux soignants hospitaliers, aux médecins libéraux, ce qui est totalement normal. Et faute de cette protection minimale, on n'a pas le droit de soigner nos patients. Par contre, on peut les conseiller par téléphone, par mail, et juger en fait de l'importance d'intervenir ou pas. Si nous devons intervenir, à ce moment-là, le Conseil de l'Ordre nous a mis à disposition un numéro et une adresse email. Donc dans chaque département, il y a des dentistes d'urgence qui sont d'astreinte. Mais je pense qu'en attendant,
Déjà, j'allais donner la parole au docteur Jimmy Mohamed qui voulait vous interroger également.
Oui, petite question, c'est que les dentistes, je pense qu'ils ont peut-être un peu plus l'habitude d'avoir des masques et des équipements de protection que les médecins pouvaient en avoir. Vous n'aviez pas suffisamment de stock finalement pour tenir très longtemps, ou c'est une histoire de risque qui était devenue inconsidérable et surtout non maîtrisée?
Le risque était absolument pas maîtrisé, dans la mesure où ces masques chirurgicaux n'étaient absolument pas suffisants. Et on pense qu'un grand nombre de dentistes ont été contaminés et, bien évidemment, contaminé leur entourage. Alors, cette abstention thérapeutique, elle est d'abord fondée sur la sécurité du patient. On a aussi un risque de contaminer le patient et qui contaminera lui-même son entourage. Et faute de ces protections minimales que nous attendons, dès que nous recevons les kits de protection, masques FFP2 avec tous ces équipements qui vont avec, nous sommes prêts.
Vous vous remettrez au travail normalement, bien sûr.
On attend avec impatience. Voilà.
Docteur Hamzalag, ici on reçoit beaucoup de questions d'auditeurs. Là, on en a reçu une de Marie qu'on salue au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. On va l'écouter d'abord.
Bonjour Mélanie Gomez, bonjour, je suis Marie. En fait, ma fille doit se faire opérer des dents de sagesse, des quatre dents de sagesse mercredi prochain. Et en fait, son chirurgien dentiste n'a pas encore annulé. Je voulais savoir si vous pensez qu'il faut que j'annule de mon côté. Merci beaucoup, au revoir.
Docteur Hamzalag, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Marie? Une opération d'extraction de dents de sagesse, c'est pas vraiment une urgence, je pense. Enfin, je sais pas.
Écoutez, sincèrement, s'il n'y a pas d'inflammation, si elle est dans une phase plutôt calme, il est souhaitable qu'elle reporte l'intervention. Ceci étant dit, qu'elle appelle son chirurgien pour bien le vérifier. Mais pour le moment, on suspend toute intervention qui n'est pas urgente, qui n'est pas impérative. Donc là, c'est extrêmement important.
Justement, quels sont les motifs de consultation dentaire qu'on peut annuler? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Détartrage, par exemple, je pense qu'on peut le différer, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui peuvent être temporisées, décalées, sans pour autant mettre en jeu finalement la santé bucco-dentaire des patients?
Alors, pour le moment, on ne doit surtout pas. On a des directives de l'ordre des chirurgiens pour ne pas du tout intervenir. Nous sommes capables. Ce qui est intéressant, c'est que le patient peut appeler son dentiste traitant qui le connaît très bien. Il a son histoire dentaire, il a ses radiographies et il peut très bien lui donner les premiers conseils en attendant de vraiment la consultation d'urgence. Par contre, nous,
mais si on a une rage de dents, c'est atroce la douleur dentaire, on fait comment?
Je suis entièrement d'accord, c'est atroce. Dans ces cas extrêmes, qui est ce qu'on appelle la rage de dents, la pulpite, l'inflammation du nerf, heureusement que l'ordre des chirurgiens dentistes a une batterie de dentistes régulateurs qui sont là pour apprécier le niveau de douleur et éventuellement affecter le patient à ce dentiste qui est réserviste, qui est destiné à soigner le patient en urgence. Juste une chose extrêmement importante, les patients ont tendance à s'automédiquer. Il faut savoir que vous parlez de l'urgence la plus urgente, qui est la plus dangereuse.
Rapidement, docteur Hamzalag, on doit conclure, je suis désolé.
C'est un abcès avec la joue qui gonfle très fort. Surtout, bien évidemment, appeler son dentiste traitant et ne surtout pas prendre d'Advil ou de Nurofen, car ça peut provoquer une septicémie mortelle, ça diminue complètement l'immunité. Restez en... Moi, la seule chose que je peux vous dire en conclusion, c'est qu'il faut appeler son dentiste ou traitant qui vous connaît très bien, qui va non seulement vous soutenir, vous envoyer une ordonnance si nécessaire, et éventuellement vous orienter vers le dentiste régulateur de l'ordre des chirurgiens dentistes.
Merci beaucoup à vous, docteur Hamzalag. On a compris, hein, les dentistes font tout ce qu'ils peuvent pour assurer la continuité des soins. Merci encore.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour une nouvelle émission spéciale consacrée au coronavirus. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors Catherine, avec vous, on aborde des questions psychologiques en lien avec le confinement, notre situation à tous en ce moment. Aujourd'hui, on voulait parler de ces couples, hein, qui n'allaient déjà pas très bien avant l'épidémie, qui étaient même pour certains, forcément il y en a, hein, déjà au bord du divorce, et qui du coup se retrouvent confinés les yeux dans les yeux. C'est quand même une situation un peu compliquée ça, non ?
Absolument, bien sûr qu'elle est compliquée la situation, mais elle est aussi une occasion formidable. Bien sûr, on peut s'écharper, on peut en sortir particulièrement perdant parce qu'on avait écrit déjà la fin de l'histoire, mais on peut aussi considérer que comme on est coupé du monde, coupé des regards sur un extérieur que l'on trouve toujours plus beau chez le voisin que chez soi, eh bien pour envisager, regarder concrètement ce qu'est l'autre, cet autre qu'on a aimé en une autre période, et peut-être essayer de retrouver ce qui nous a plu, ce qui a fait la cohérence de la relation et ce qui fait aussi la cohérence du tandem, à défaut de retrouver tout de suite de l'amour, voire de ne jamais le retrouver, mais au moins de voir la cohérence de la relation.
Jimmy ?
Je trouve un petit peu optimiste, Catherine, mais tant mieux, on a besoin d'optimisme en cette période. Comment on fait ?
Parce que je suis une indécrottable optimiste, vous le savez très bien.
Non, mais vous avez raison, mais quand la situation est très compliquée, c'est vrai qu'on se retrouve en face à face. Si, alors, je ne parle pas pour moi tout va bien, mais si jamais c'est compliqué et que on doit gérer la cohabitation, est-ce qu'on doit faire chambre à part, dire on mange chacun à son tour, la salle de bain, on va se donner un créneau. Est-ce qu'on doit quand même essayer de mettre des distances pour éviter de péter les plombs ?
Je crois que ces couples, de toute façon, étaient déjà dans des situations où ils avaient aménagé ce qui était à faire ensemble ou pas. Donc peut-être avaient-ils déjà les repas ensemble. De toute façon, ils sont tout à fait capables de les maintenir et peut-être peuvent-ils se proposer d'être chacun à leur tour à l'origine de faire le repas pour que justement il y ait une position une position active de chacun. Je pense que de se dire que là est mon territoire, là.
Allô ? Catherine, on a de nouveau perdu Catherine. On a une liaison qui n'est pas forcément bonne. C'est les aléas du direct dans des conditions particulières. Jimmy, vous êtes toujours là, je crois.
Oui, et d'ailleurs, on peut en profiter. Je ne sais pas comment ça se passe, vous, Mélanie, avec vos enfants. Vous êtes à la maison, tout va bien. Je sais que vous n'avez pas de problème.
En attendant de récupérer Catherine, on peut peut-être raconter ce qui se passe chez nous. Bah, écoutez, moi, ça va, j'ai un mari restaurateur qui ne travaille plus. Donc là, il est derrière la porte, il s'occupe de mes enfants. Et je lui dis d'ailleurs un grand merci parce que c'est pas évident de s'occuper des deux comme ça pendant que maman travaille. Donc il m'envoie des photos de temps en temps des enfants derrière la porte. Voilà, mais sinon, ça va plutôt bien chez vous.
Il faut reconnaître que lorsqu'on est... Oui, on travaille, mais lorsque c'est vrai qu'on est un peu plus à la maison, finalement, on se rend compte que être à la maison, c'est un travail. Mmh. Et que c'est pas
Catherine
simplement s'occuper
de retour,
des enfants. Donc,
Jimmy.
Donc on a enfin Laura. Ah, elle va nous délivrer, Catherine.
On n'est plus obligé de raconter notre vie. Jimmy, Catherine, vous êtes de retour.
Ah, mais moi, je ne suis jamais partie, mais j'adore. Mais comme ça, moi, je vous écoute.
On se confie, là. On aura besoin de vos conseils derrière. Bon, comment on fait, alors ? Est-ce que ça ne peut pas être aussi l'occasion, avec ces couples qui n'allaient pas forcément... On n'a pas parlé de ceux qui étaient forcément au bord du divorce, mais de se retrouver, justement, et d'essayer de remettre un petit peu les choses à plat. On a du temps, du coup, pour ça.
Moi, je trouve que c'est un moment où on peut se parler et où on n'est pas en comparaison avec les couples voisins, où on ne sort pas pour trouver la fille dans la rue plus jolie et plus avenante et plus polie ou plus agréable, ou le garçon plus attentif. Non, on est entre soi. On a été entre soi, on s'est aimé. Donc, on peut faire appel à nos souvenirs et essayer de trouver justement le moyen de relancer non pas l'amour. N'essayons pas de vouloir d'être plus royaliste que le roi. Prenons les choses une à une, à savoir de cohabiter de façon intelligente. Et pourquoi on n'y arrive plus ? Parce que on ne veut pas laisser à l'autre la possibilité d'avoir un tant soit peu de pouvoir, et notamment le pouvoir de nous plaire ou de nous satisfaire ou de répondre à notre besoin. Donc chacun y va de son autorité sur l'autre ou de sa frustration déjà écrite avant même que l'un ou l'autre ne s'exprime. Donc je crois que c'est un moment où mettre le calme dans nos pensées et se proposer de soulever peut-être un sujet par jour, pas tous les sujets qui sont à l'origine de leur tension.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On espère que demain la liaison sera meilleure. On vous retrouve bien sûr donc demain. N'oubliez pas, demain sans rendez-vous revient. Nous restons mobilisés et envoyez-nous vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Après